L'été avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient et dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la condamnation de Jean-Pierre Bemba. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée par la Cour pénale internationale. 18 ans de prison pour l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Centrafrique au début des années 2000, des crimes commis par les hommes de sa milice. Alors certes, Jean-Pierre Bemba n'était pas physiquement présent sur le terrain, mais c'est la Cour pénale internationale l'a tout de même condamné en tant que donneur d'ordre. Et c'est d'ailleurs la première fois que la CPI condamne une personne en vertu de ce qu'on appelle la responsabilité du commandant. Alors que vous inspire ce verdict? Peut-on parler d'un procès politique, d'une justice sélective, comme le dénoncent ce matin sur l'antenne d'RFI les partisans de Jean-Pierre Bemba? Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous continuez à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en région parisienne ou en France, et vous continuez évidemment à poster vos réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Abdoulaye nous appelle de Cancan, c'est en Guinée. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Bienvenue, merci de nous appeler. Vous avez des questions vous concernant les relations entre le Venezuela et les États-Unis?
Oui, je commence d'abord par dire grand merci à tous vos techniciens qui ne se font entendre que par votre voix.
Ah, merci pour eux. Vous avez raison de saluer leur travail. On vous écoute, Abdoulaye.
J'ai appris sur les antennes de la RFI que les États-Unis et le Venezuela vont renouer leurs relations diplomatiques. Alors, quels sont les intérêts pour les États-Unis de se rapprocher du Venezuela? Pourquoi Nicolas Maduro a changé de politique? Est-ce que cela va favoriser son pays à sortir de son isolement?
Oui, la reprise des discussions entre Caracas et Washington, les ennemis d'hier vont-ils se réconcilier? Bonjour Arim Lipon.
Bonjour Juan, bonjour Abdoulaye.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international d'RFI. Alors on sait que depuis le début des années 2000, les relations sont houleuses entre Washington et Caracas. On se souvient des propos virulents du président défunt Hugo Chavez, insultant George Bush, le traitant d'alcoolique, de diable, des propos, voilà,
qualifiant... Ça s'est pas arrangé après avec Obama.
Ça s'est pas arrangé, voilà. Effectivement. Tout à fait, Caracas continue de considérer les États-Unis comme l'empire impérialiste. Malgré tout, est-ce qu'on peut dire qu'une page est en train de se tourner?
Peut-être, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, et je pense qu'on peut peut-être pas forcément parler d'un renouement des relations diplomatiques, parce que contrairement à ce qui s'est passé entre les États-Unis et Cuba, finalement les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela ne sont jamais rompues.
Il n'y a plus d'ambassadeurs, ils ont
retiré leurs ambassadeurs, c'est vrai, en 2010, mais ils ont toujours un chargé d'affaires, ils ont toujours une ambassade à Caracas et à Washington, et puis il y a aussi des contacts permanent, fréquent, au niveau diplomatique entre les deux pays. Ce qu'on va peut-être voir maintenant, c'est un changement sur la rhétorique. Parce que c'est vrai que le secrétaire d'État John Kerry a rencontré son homologue vénézuélienne Delcy Rodríguez la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains. Une rencontre qui a été assez médiatisée finalement du côté des États-Unis et aussi du côté du Venezuela. Et ils ont finalement déclaré vouloir rétablir le dialogue entre les deux pays. Et ce qui est assez nouveau, c'est que finalement, un haut diplomate américain va bientôt aller à Caracas pour justement donner forme à ce nouveau dialogue. Et d'après Nicolas Maduro, le président vénézuélien, on pourrait effectivement bientôt avoir à nouveau un ambassadeur vénézuélien à Washington et un ambassadeur américain, si tout va bien, voilà, à Caracas. Ouais.
On comprend là, dans la diplomatie de Barack Obama, cette volonté de se rapprocher de l'Iran, de se rapprocher de Cuba. Quel intérêt les Américains ont-ils à se rapprocher maintenant du Venezuela?
Je pense que les Américains ont compris que finalement, s'ils veulent peser sur les événements au Venezuela, vous savez, le pays se trouve dans une crise à la fois économique, politique et malheureusement, surtout humanitaire en ce moment, eh bien, il faut peser sur les événements, et on peut peser en se rapprochant du pays et en essayant de peser surtout sur la médiation internationale qui est en cours, la médiation qui essaye finalement de renouer aussi le dialogue entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement. Et
d'ailleurs, il y a même un référendum qui est en cours de préparation pour essayer de destituer le président Maduro. Le président Maduro a besoin aujourd'hui des Américains ?
Je pense que le président Maduro a besoin des Américains dans le cadre international. Il a besoin que les Américains, finalement, soutiennent le pays et essayent de faire en sorte que le Venezuela ne soit pas suspendu de l'OEA, de l'Organisation des États américains. Et Kerry, d'ailleurs, a très bien dit que, bon, si tout va bien, si on arrive à avoir un dialogue, eh bien, évidemment, il n'y a pas question de suspendre le Venezuela. Donc, les deux pays ont, en quelque sorte, besoin l'un de l'autre. Rappelons aussi que sur un plan économique, les relations sont très, très, très fortes. Hein. Oui. Le Venezuela exporte du pétrole aux États-Unis, importe aussi.
On insulte les Américains, mais on continue à leur vendre du pétrole.
On continue à vendre du pétrole et à importer aussi leur pétrole.
Merci, Arim. On a dit l'essentiel.
Je pense.
Voilà, moi aussi, je pense. Abdoulaye, on vous souhaite une bonne journée et merci d'écouter RFI à Cancan, donc en Guinée, Conakry, où il est 8h17. Vos questions à la rédaction d'RFI, Herman, vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, Herman.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Merci.
La question que je voulais savoir, après le repêchage des deux boîtes noires de l'avion A320 de Égypte, j'aimerais savoir d'abord qui sera en charge de l'analyse de ces boîtes. Ensuite, est-ce que les données recueillies de ces boîtes sont exploitables?
Les deux boîtes noires, effectivement, qui ont été retrouvées en morceaux, on parle évidemment du crash de l'Airbus A320 d'Égypte en Méditerranée, survenu il y a maintenant un mois, c'était le 19 mai. Bonjour Alexis Bédu.
Bonjour Juan, bonjour Herman.
Merci d'être avec nous. Alors depuis samedi, les boîtes noires sont entre les mains des enquêteurs. Concrètement, qui est chargé maintenant de les analyser?
C'est un comité égyptien qui est chargé de l'enquête sur le crash, donc de l'analyse des boîtes noires, puisque l'avion s'est écrasé dans les eaux égyptiennes, c'était en mer Méditerranée. Les experts français du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, sont en appui. Il y a aussi un représentant du bureau national de la sécurité des transports américains, parce que les moteurs sont fabriqués par un consortium comprenant une compagnie américaine. Bref, beaucoup de monde autour de ces boîtes noires.
Alors, ces boîtes noires pourront être, on peut le dire, compliquées à déchiffrer, puisque je le disais tout à l'heure, elles ont été retrouvées en morceaux. Il faut quand même préciser deux choses, c'est que dans les avions commerciaux, il y a deux boîtes noires, hein, c'est ça?
Oui, voilà, deux boîtes noires. Il y a d'abord l'enregistreur des conversations du cockpit, le CVR, le Cockpit Voice Recorder, très souvent d'une grande utilité puisqu'il peut contenir jusqu'à 2 heures d'enregistrement en écoutant ce que se sont dit les pilotes, le pilote, le copilote. Mmh. Peut-être que le mystère autour de ce crash s'éclaircira.
On pourra peut-être entendre si ça a été le cas, s'il y a eu une explosion avant que l'avion disparaisse.
Tout à fait, puisque la thèse de l'attentat a longuement été évoquée. Aujourd'hui, on ne sait clairement pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une erreur de pilotage ou un attentat? Aujourd'hui, pas de réponse. La deuxième boîte noire, c'est la Flight Data Recorder. C'est la boîte qui mémorise tous les paramètres du vol. Alors la mission des enquêteurs, c'est de refaire minute par minute l'historique du vol pour comprendre en fait ce qui s'est passé.
Sait-on si les deux boîtes sont exploitables?
Difficile à dire. Hein. Les Égyptiens en charge de l'enquête communiquent pas trop. Les comptes rendus sont assez imprécis. On sait que les deux boîtes noires sont fortement endommagées. La Flight Data Recorder retrouvée en plusieurs morceaux. La partie la plus importante qui contient la mémoire de l'appareil a pu être récupérée. Alors l'important, c'est de savoir maintenant ce qui est fortement endommagé. En gros, une boîte noire est composée de 3 éléments. Il y a un châssis qui prend les coups lorsqu'un avion s'écrase. S'il est abîmé, ce n'est pas grave. Ça veut pas dire que la boîte noire est endommagée. Et puis à l'intérieur, il y a une carte mémoire. L'essentiel, c'est que cette carte mémoire soit en bon état, mais là-dessus, on n'a pas encore d'informations, notamment sur la lisibilité de ces cartes.
Donc à l'heure qu'il est, les enquêteurs égyptiens planchent sur les boîtes. Il faut d'abord évidemment les sécher. Ça prend du temps, là aussi. Ça peut prendre combien de temps en tout?
On ne sait pas exactement combien de temps, mais ça peut être très très long. En tout cas, c'est 8 heures pour sécher ces boîtes. Vous l'avez dit, elles sont depuis samedi, elles sont en train d'être analysées. C'est un moment crucial hein, dans l'enquête. Voilà, permettre de reconstituer le puzzle des dernières minutes du crash. Il faudra du temps pour avoir ces réponses. Mais c'est très important, c'est vital, même notamment pour les familles des 66 victimes.
Herman, on a répondu à votre question?
Oui, je suis satisfait de toutes ces explications. Merci beaucoup.
Eh bien, remercier surtout Alexis Bédu qui est venu vous répondre ce matin ici dans ce studio parisien. À bientôt à tous les deux, 10h20 à Paris. Vos questions, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vos réactions également dans 20 minutes concernant la condamnation hier de Jean-Pierre Bemba. Je vous rappelle le verdict, 18 ans de prison donc pour l'ancien vice-président congolais de la République démocratique du Congo. Daniel Valot du service international est à mes côtés. Bonjour Daniel.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir. On a reçu des questions concernant la lutte contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Jima, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous êtes au Bénin, vous nous appelez d'Abomey Calavi exactement. On vous écoute, quelles sont vos questions ?
Oui, en fait, depuis le vendredi passé, les forces irakiennes ont repris la plus importante ville irakienne, Fallujah, contrôlée par Daesh depuis 2014. À cet effet, je voudrais savoir quelles sont les armées impliquées dans cette offensive pour la libération de Fallujah. Les prisonniers ont-ils été parmi les rangs de l'État islamique?
Alors, Daniel Valot, oui. Depuis le week-end dernier, le drapeau irakien flotte à nouveau sur cette ville qui est située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. La ville n'est pas entièrement encore contrôlée par les forces irakiennes. Il y a encore des poches de résistance. Malgré tout, qui est actuellement sur le terrain ? Qui a permis la libération en partie de cette ville ?
Alors, il y a plusieurs acteurs sur le terrain. Ça s'explique par le fait que l'armée irakienne, on s'en souvient, s'est effondrée en 2014 face aux assauts de l'organisation de l'État islamique. Alors depuis, il y a deux forces principales qui ont émergé pour faire face à l'organisation de l'État islamique, les milices chiites et les unités antiterroristes de l'armée irakienne. Alors on va parler d'abord de ces milices chiites qui sont souvent mieux équipées et mieux entraînées que l'armée irakienne elle-même. Il en existe un très grand nombre et elles sont très autonomes, même si théoriquement elles sont placées sous l'autorité du premier ministre irakien. Elles existaient avant cette guerre contre l'organisation de l'État islamique. Simplement, depuis 2014, elles ont bénéficié d'un afflux populaire très important avec un très grand nombre de volontaires. Et puis, il y a ces unités antiterroristes de l'armée irakienne. Ce sont des forces spéciales qui sont elles aussi très bien équipées et qui ont été également très bien entraînées par les Américains lorsqu'ils étaient en Irak dans les années 2000. Ces forces spéciales, ces forces antiterroristes, elles sont en première ligne dans cette bataille de Fallujah, à la fois parce qu'elles sont très efficaces et aussi parce qu'elles sont plus disciplinées que les milices. Et on craint que ces milices, si elles entraient dans Fallujah, elles fassent des exactions contre la population civile. Il y a d'autres forces, bien entendu, les unités régulières de l'armée irakienne, des unités de la police et également des milices sunnites. Il faut mentionner également, enfin, les acteurs extérieurs, les États-Unis, la coalition internationale qui bombarde depuis les airs, et puis l'Iran qui soutient également ces milices chiites.
Alors, Jima nous demandait s'il y avait des prisonniers dans les rangs de l'État islamique. La réponse est oui.
Oui, alors, on ne sait pas exactement combien de prisonniers sont faits. Il y a des prisonniers qui sont faits au cours des combats, naturellement. Il y a également des prisonniers qui sont faits parmi les civils qui tentent de fuir, qui fuient la ville de Fallujah. Pourquoi ? Eh bien, parce que les autorités irakiennes pensent que parmi ces civils qui fuient, il y en a qui appartiennent en fait à l'organisation de l'État islamique. Il y en a qui ont été complices de cette organisation de l'État islamique. Et donc, ils sont interrogés et certains sont arrêtés. On a un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. On ne sait pas trop ce que ça vaut. C'est le chef de la police de la province d'Al-Anbar, donc où se trouve la ville de Fallujah, qui dit que 546 terroristes présumés, entre guillemets, ont été arrêtés en deux semaines de combat. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliers d'hommes qui ont quitté la ville et qui ont été arrêtés au moins quelques jours. Et un grand nombre d'entre eux sont toujours détenus autour de Fallujah.
Allez, vous avez une autre question, Jima ?
Oui. Je voudrais aussi savoir, y a-t-il des victimes civiles pendant cette offensive irakienne ?
Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des victimes civiles.
Oui, alors, il y en a forcément, comme dans toute bataille qui se déroule en milieu urbain, on n'a aucun chiffre, enfin, en tout cas, à ma connaissance, sur les victimes civiles liées au combat. On a quelques chiffres, en revanche, sur les civils qui ont essayé de fuir la ville et qui ont été tués d'abord par les combattants de l'État islamique qui voulaient les empêcher de fuir, et ensuite par les milices chiites qui se trouvent autour de cette ville, qui ont fait... Il y a eu des cas d'exécution sommaire qui ont été rapportés par l'ONU et qui ont été également rapportées par des organisations de défense des droits de l'homme. Human Rights Watch a notamment parlé de 17 personnes qui auraient été exécutées à la sortie de la ville par des forces paramilitaires.
Voilà. Ouais, d'ailleurs, le gouvernement irakien a promis une enquête, affaire à suivre. Merci beaucoup, Daniel Valo, d'être venu répondre à Jima, à qui nous souhaitons une bonne journée à Cotonou, au Bénin, à Abomey, Calavi. C'est pas tout à fait Cotonou, c'est à quelques kilomètres, mais enfin, c'est au Bénin, en tout cas. Allez, on termine, il nous reste 4 minutes, on va prendre une dernière question ce matin au standard RFI. Osvaldo, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Bruxelles et vous avez des questions concernant l'Angola et plus précisément l'enclave de Cabinda.
Oui Juan, j'ai appris en début de ce mois la mort du président Zita Henrique Thiago du Front de Libération de l'enclave du Cabinda. J'aimerais savoir, est-ce que le FLEC va-t-il continuer d'exister après sa mort et qui pour le succéder?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, parce que déjà, imaginez-vous bien, Osvaldo, que le Cabinda est un territoire quand même méconnu du grand public. Le FLEC dont vous parlez, c'est le Front de Libération de l'enclave de Cabinda. C'est un mouvement qui réclame l'indépendance de cette petite enclave angolaise qui est coincée entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Ça fait maintenant quasiment 50 ans que le FLEC réclame donc l'indépendance. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Alors, l'homme qui incarnait le FLEC, le leader historique de ce mouvement, est donc décédé à Paris. Il avait 88 ans. Qui est susceptible aujourd'hui de prendre la succession, de prendre la relève?
Ben écoutez, deux hommes revendiquent en tout cas cette succession. Emmanuel Nzita, secrétaire général exécutif du mouvement et fils de Nzita Thiago, en exil comme son père. Et le commandant Alexandre Tati, qui lui est commandant militaire au Cabinda. Alors chaque homme a ses atouts et ses faiblesses. Hein. Emmanuel Nzita, en plus de ses fonctions au sein du mouvement en exil, peut faire valoir une légitimité, disons, traditionnelle en tant que fils du dirigeant historique. Mais son ancrage au Cabinda sur le terrain est fragile. Et parmi les maquisards qui reconnaissent son autorité, quelques-uns sont vieillissants. Emmanuel Nzita, en outre, ne parle pas portugais, ni fioti, la langue locale du Cabinda. Et puis de l'autre côté, le commandant Tati, lui, s'appuie au contraire sur les maquisards présents sur le terrain, hein, dont des jeunes. Des maquisards qu'il dirige, selon lui, depuis 88. Mais en revanche, son aura politique est plus limitée. Alors par contre, les deux hommes sont d'accord sur l'objectif, hein, l'indépendance de l'enclave, même s'ils sont moins unanimes sur les modalités, indépendance immédiate et totale ou passage par un statut d'autonomie élargie. Alors, on ne peut pas faire de prédictions sur l'avenir du mouvement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est affaibli actuellement par manque de financement. Il n'a plus de soutien vraiment ni régionaux ni occidentaux, ce qui rend difficile la poursuite de la lutte armée. Hommes et équipements sont usés. Alors, si politiquement, cette revendication indépendantiste reste vive, avec notamment le soutien de la majorité, toujours, de la population du Cabinda, la lutte armée tend à s'essouffler. Oui. Et l'Angola, comme toujours, peut jouer sur les dissensions donc entre les différents leaders du mouvement.
Et le dernier coup d'éclat visible sur la scène internationale du FLEC, il remonte à janvier 2010, tout le monde s'en souvient, ce bus transportant une partie de l'équipe de football du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, ce bus avait été mitraillé. Voilà un événement qui peut, en tout cas dans la mémoire de nos auditeurs, identifier un peu ce qu'est concrètement le FLEC. Vous avez une autre question, Osvaldo?
Oui, et pourquoi le Cabinda, qui remplit les conditions requises pour son droit à l'autodétermination, est toujours absent sur l'agenda politique des Nations Unies?
Ah. Alors, un peu d'histoire peut-être, pour qu'on comprenne bien, Laura Martel.
Oui, alors, en fait, les textes de référence des indépendantistes, c'est surtout le traité de Simulambuko de 85, qui en fait place...
85, de 1885.
Ça date un peu, qui place l'enclave du Cabinda sous le protectorat du Portugal. Et donc, ça établit juridiquement l'existence de cette entité politique cabinaise distincte de l'Angola, en tout cas au 19e. Ensuite, en 57, quand le Portugal place Cabinda et Angola sous un administrateur unique, les indépendantistes soulignent que ça se fait en contradiction avec la constitution portugaise de 33 qui distingue les deux territoires. Et ensuite, en 64, l'OUA publie une liste des pays à décoloniser. L'Angola est le 45, le Cabinda le 39. Et donc, pour les indépendantistes, la cessation du protectorat aurait dû s'accompagner de l'indépendance.
Et on va poursuivre ce volet historique dans un instant.
Priorité santé.